Je parle tout bas pour ne pas me réveiller.
Accroche-toi bien.
Ça suffit.
Dans tes rêves.
C'est impossible.
Vous êtes en retard pour le thé.
Seulement si tu crois que c'est impossible. Dans tes rêves.
Dans tes rêves, il y a des flics qui boivent des bières sans alcool avec des blousons noirs. Il y a aussi des jeunes anards dans une ferme bio avec une boîte aux lettres interdite à la pub. Il y a des trains fantômes qui arrivent à l'heure. Dans cette gare d'arrivée à destination de nulle part, tous les voyageurs de la vie finissent sur le même quai, qu'importe l'heure, la mort s'en fiche. L'important, c'est de faire du chiffre. Dans tes rêves, il y a un type enfermé dans l'alphabet, coincé entre le F et le P. Il tente une courte échelle avec le L, mais le S lui fait un croche-pied et il s'étale de tout son long sur le B bien rebondi avant d'être pris en otage par le Z. Le pauvre type devient la monnaie d'échange de l'alphabet en colère contre les algorithmes qui préfèrent le jeu des chiffres cyniques aux lettres romanesques. Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui de l'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin, tout est possible, tu deviens un super-héros de la vraie vie. Alors si on écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous.
Dans tes rêves,
France Inter,
Laurence Garcia.
Et pour cette rêve partie, une rencontre d'imaginaire bien peuplée, je le sens, dont je me suis inspirée. Mon premier se dit écrivain, libertaire et utopiste. C'est une des plumes du polar noir, bien de chez nous, éditeur, père du poulpe, un des papous dans la tête sur France Culture. Mazad, c'est son dernier roman punk dans la série noire de chez Gallimard. Bonjour, bonsoir Jean-Bernard Pouy.
Bonsoir.
Ça vous va pas, polar punk?
Ah si, moi j'adore les punks, mais alors quand on dit qu'on adore les punks, on subit des regards un peu distanciés, disons.
Oh, pas chez nous, non, c'est bien.
Mais non, mais c'est toujours pareil, les mouvements esthétiques ou autres, quand ils disparaissent, ils paraissent comme vieillots et compagnie. Maintenant, il faut être...
Il faut être techno-rap. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, c'est marrant parce que Jean-Bernard Pouy, vous vous dites auteur et pas écrivain, en disant que l'écrivain, lui, il a un chat, il écoute Mozart. Et l'auteur, il écoute du punk, il a pas de chat.
Oui, puis écrivain, ça peut s'écrire écrivain. Ah donc, oui. Au moins, auteur, on peut mettre un H devant pour tromper l'adversaire. C'est la différence.
Je sens qu'il va y en avoir des jeux de mots ce soir, surtout également avec mon second invité, pianiste, auteur, compositeur, un toqué des jeux de mots, palindromes et autres anagrammes. Le Vivarium de Palindrome aux éditions Fayard, c'est son dernier livre consacré à ces phrases qui se lisent dans
les deux sens.
Dans les deux sens. Bonjour Jacques Perissakov. Oui. Vous les appelez vos serpents à deux têtes?
Ah oui, en fait, c'est des phrases qui n'ont ni queue ni tête, ou alors tout y est tête et queue, pardon.
Oula!
Puisqu'on peut les lire indifféremment de gauche à droite et de droite à gauche, par exemple. Le verbe ressasser, ou le verbe rêver.
Ah, c'est vrai, rêver.
Et, après, on peut faire des phrases comme « fiancé va avec naïf ».
Pas mal.
Léon a été à Noël.
Oui, voilà.
Élu par cette crapule.
Où elle ramassa pas à pas sa marelle.
Waouh. Et dans tes rêves, vous avez notre anagramme?
Alors, dans tes rêves, il y a des servantes. Des servantes dans tes rêves.
Alors nous serions des servantes, nous, toutes les filles qui travaillons pour cette émission.
Et dans tes rêves, il y a aussi danses et vers.
Ah, je préfère.
Les vers de poésie.
Alors, ce qui est dingue entre vous, vous êtes tous les deux des joueurs de mots, littérature à contrainte, autre, et c'est votre première rencontre dans la vraie vie. Comment se fait-ce, messieurs?
Je sais pas, on sait pas.
Non, mais moi j'ai déjà rencontré son acolyte.
Étienne Klein.
Donc, j'ai déjà fait, oui.
Le physicien.
Donc, grâce à vous.
Qu'on a reçu.
Mais c'est pour ça que j'ai déjà fait un peu le chemin vers lui. Mais je le repère. Hein, c'est pas parce qu'il habite, je sais pas où, loin, qu'on le perd de vue. Oh là, on le suit à la trace.
Non, mais justement, à quoi on repère chez l'autre celui qui prend la vie au 150e degré, pas forcément au premier, celui qui est plutôt fantaisiste, pas forcément dans le rationnel, dans l'imaginaire. Ça se repère, ça?
Oh, bah oui. Moi, j'ai fait le chemin un peu vers Jean-Bernard comme auditeur. Hein. Mais oui,
à l'oreille.
À l'oreille, les jeux de mots, les
C'est une façon de prendre la vie aussi.
Oui, oui, c'est une façon de prendre la vie. En fait, c'est le goût du détournement des choses, pas prendre les choses au pied de la lettre et... Peut-être, enfin, en tout cas chez moi, le goût du secret, c'est comme si les mots recelaient un secret. Il fallait
trouver le message codé derrière. Oui.
Enfin, l'anagramme, en tout cas, l'anagramme est lié à la révélation. Hein, et c'est comme si
carrément. Oui. L'anagramme, oui. Attendez, rappelez-nous pour certains auditeurs.
Alors c'est oui, on mélange les lettres d'un mot pour former un autre mot. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner ?
Il a plein de notes devant lui.
Oui, tiens, je prends au hasard l'Angleterre, par exemple. Pour moi, vous savez, le Brexit était tout à fait prévisible. Parce que l'anagramme de l'Angleterre, c'est l'étrangère.
Ah, bien. Le sens caché.
Alors, ce qui est très, très, très mystérieux, c'est que moi, je m'intéresse beaucoup à tous ces jeux de langage, et notamment tout ce qui démarre du mot. Et je suis absolument pas doué en anagramme.
Ah bon ?
Je les vois pas. Et je pense qu'eux, ils ont j'ai rencontré Étienne Klein et maintenant Jacques. Il y a un œil. Tout de suite, ils voient par où démarrer. Parce que c'est insondable. Quand il y a 10 lettres, il y a 10 puissance 10. Enfin bon, solution. Donc, ils voient tout de suite où c'est qu'ils peuvent aller.
Ouais.
Et moi, quand je suis obligé de faire les anagrammes, alors là, j'en bave... énormément. Quoi.
C'était au 15 ou 16e siècle, il y a un poète qui... il y a eu une grosse mode de l'anagramme dans les cours d'Europe, et puis un poète qui a un jour, qui en avait ras-le-bol, et qui a dit « Tous ces renverseurs de noms ont la cervelle renversée ». Alors moi, je pense que c'est ça, quoi. Je crois qu'on a la cervelle renversée.
Oui, d'ailleurs, en parlant de cervelle renversée, il paraît que votre médecin était un peu inquiet pour vous, non ? En disant qu'il va falloir quand même stopper un peu vos histoires.
Ça, c'est à propos du palindrome, donc les mots qu'on peut lire de gauche à droite et de droite à gauche. Oui, parce qu'avec un ami, Frédéric Schmitter, avec qui on a écrit deux livres, on a eu l'effronterie de vouloir battre le record du plus long palindrome.
De Pérec.
Le record de Pérec, qui est 5566 lettres. Et nous, on a écrit un palindrome de 10 001 lettres, comme des effrontés. Et à cette époque-là, je dormais plus parce qu'il y a une espèce de persistance. Je travaille en dormant et je suis allé voir mon médecin pour qu'il me donne un petit truc doux pour dormir. Il m'a simplement dit, Monsieur Perry, pas de palindrome après 18 heures. Et voilà, je lui ai dit combien je vous dois.
Et... 35. Les grands malades de l'imaginaire. Oui. Votre rapport à la vraie vie, au réel, on reparlera tout à l'heure de Mazad, inspiré de toutes ces nouvelles utopies activistes des zones à défendre, dont on parle beaucoup d'ailleurs depuis toute cette semaine, Jean-Bernard Pouille. Vous regardez, vous, le réel, la vraie vie, à travers le prisme du polar noir, où il y a des méchants, des gentils, des héros, des anti-héros, des salauds, pas forcément des happy ends.
Oui et non, parce que en fait, écrivant des polars noirs, je suis obligé de respecter la consigne, la contrainte. Le roman noir est un roman de critique sociale.
Oui.
Bon, donc il faut d'une certaine manière répercuter une certaine forme de réel et sous sa forme contestatrice plutôt. Mais comme moi je suis un déconneur, comme j'aime bien jouer, comme j'aime bien attraper le lecteur pour le mener dans les endroits où après il est énervé de s'y retrouver. Bon, donc je mélange les deux. Je mélange une espèce de réel qui est comme fantomatique et généralement noirâtre quand même, avec des blagues lamentables, des contraintes, des choses comme ça. D'ailleurs, en même temps, au début, on me le reprochait un peu. Parce que c'est vrai que la littérature, c'est un monde sérieux. Alors, on doit pas trop jouer avec ça, un peu. Alors, il y a des gens comme Queneau, Pérec, et tout, on leur pardonne un peu. Mais en même temps, Pérec, il y a un pathos, il y a un terrible, donc on le laisse faire ça. Mais moi, personne ne connaît mon pathos particulier. Alors que je peux vous dire que...
Bon, non, non, c'est pas... on prend pas au sérieux les déconneurs, alors.
Ouais. Et maintenant, on vous en redemande.
Et maintenant, on m'en redemande, voilà, exactement. Non, moi, le truc simple, c'est que je m'amuse. Donc,
puis la déconne, c'est la pirouette aussi, pour affronter et regarder un petit peu de biais le tragique, aussi.
Oui, et puis ça fait partie aussi d'une histoire littéraire, c'est-à-dire que le roman noir n'a pas été que... une accumulation de romans sinistres, désespérants, qui portent au suicide. Il y a aussi des pépites qui sont liées à l'humour, au jeu de mots, à la bêtise même, et puis à la folie aussi. Bon, ça peut arriver jusque-là.
Jacques Paris-Salkov, il y a un palindrome que j'ai relevé là dans votre livre, puisqu'on parle de déconne, de malice, et il y a ce palindrome-là, la malice va avec « il a mal ».
Oui.
Donc quelque part, on recycle, on détourne l'obscur pour apporter un peu de 12e, 120e degré au réel.
Oui, c'est ça, et on peut le lire et le relire, on n'en finit pas. Quoi. La malice va avec, entre guillemets, il a mal.
Mais d'ailleurs, vous en parlez des anagrammes comme des enfants mal élevés qui tirent la langue à son auteur.
Ah oui, les palindromes.
Ouais.
Oui, oui, parce que... le palindrome, on a l'impression qu'il pense tout seul parce que forcément on utilise les lettres à rebours pour le créer et en fait on est tout à fait tributaire de l'ordre des lettres et c'est un peu comme s'il pensait tout seul et des fois on tombe sur des choses consternantes comme la nature se rut anal. Voilà. C'est un peu comme un enfant mal élevé qui vous tire la langue. Alors, on voudrait dire autre chose sur la nature, mais...
Non, ce qui est très fort, c'est de faire des palindromes géants.
Ah bah oui. Oui.
Mais en fait, la méthode, c'est d'avoir la curiosité de lire les mots à l'envers pour voir si... ça ne donne pas d'autres mots. Quoi.
On va regarder le monde à l'envers avec vous, je le sens. Il va y en avoir de l'imaginaire et des jolis jeux de mots. Jean-Bernard Puy, Jacques Paris-Salkov. Voilà pour notre partition lyrique jusqu'à minuit. Vous postez vos songes également sur notre page Facebook Dans tes rêves. La rêve partie anti-blues du dimanche soir avec le gang des rêveuses. Marie-Hélène Fauquier, la réalisation. Nadia Chougui, la préparation. Muriel Pérez pour la programmation. Et ce soir, la technique, notre rêveur Maxime Engrand. Belle soirée.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone.
Il s'appelle Bill Withers sur France Inter et ce soir nous explorons l'imaginaire, les rêveries, les utopies de deux gangsters, deux mots, Jean-Bernard Puy, écrivain, polar noir forcément, et Jacques Perry-Salkov, auteur, compositeur et autres palindromes.
France Inter.
L'entraînement n'est rien. Seul compte, la volonté.
Si tu parviens à dépasser ta condition d'homme, si tu te consacres à un idéal, tu deviendras tout autre.
Dans tes rêves, Laurence Garcia.
Es-tu prêt à te lancer ?
Et comme à chaque fois, messieurs, nous explorons l'imaginaire de l'enfance, de votre enfance, qui explique aussi qui l'on devient. Je vais commencer par vous, Jean-Bernard Puy. Vous êtes né en 46, grandi en banlieue, du côté de Vitry. Vous l'avez raconté, fils de cheminot, qui a notamment travaillé à la gare d'Austerlitz. C'est vrai que toutes vos sœurs sont nées dans des gares ?
Oui, sauf moi. Il y en a une à la gare de Sainte-Mazeille, l'autre à Tarbes, je crois, ou Bayonne.
Oui. Sauf moi.
Sauf moi, c'est ce qui est une espèce de désespoir premier. Mais c'est un désespoir que ne comprendrait pas un psychanalyste, donc j'insiste pas là-dessus.
Non, les psys,
c'est... Sauf que j'arrive toujours une heure à l'avance à la gare, quand même.
Ah, ça c'est drôle, mais ça c'est votre père qui vous a filé cette phobie-là ?
Avec mon père, on ratait le train d'avant.
C'est dingue, hein. Ah, parce que vous arriviez trop tôt pour...
Pour prendre le train d'avant, enfin bon, on arrivait deux heures à l'avance à la gare.
Et au final ?
Ma mère, ça la rendait folle. Et mon père disait, respire... Regarde ce qu'est une gare, respire l'odeur du voyage, du train. Mais à l'époque, hein, avec presque la vapeur, donc c'était un peu...
Respire.
Et ça m'est resté.
Écoute l'odeur de la gare, comme disait papa. Imaginons-la, justement. Ah, Jean-Bernard Puy, quand vous entendez ça, le train vapeur,
oui, bon.
Il y a forcément un imaginaire ferroviaire, il y a un romantisme ferroviaire.
Oui, mais j'ai toujours dit que un voyage en train, c'est comme un roman. Hein. Il faut qu'il y ait un début, il faut qu'il y ait forcément une fin. Surtout dans un voyage en train, c'est quand même plus prégnant qu'un roman. Mais c'est un récit où plein de choses peuvent se passer. Il y a du temps qui passe, il y a des récits annexes qui arrivent, il y a des moments d'échappatoire. Et puis, c'est le voyage, le changement de contexte, le changement de diégèse, comme diraient les intellectuels, comme Jacques. ça va toujours. Et puis, j'ai pas le permis de voiture, donc il y a forcément quelque chose qui me reste de cette histoire. Et puis, il y a des vérités bassement matérielles, c'est-à-dire que, comme j'étais fils de cheminot, et que mon père, à la fin, il avait quand même... un certain poste, disons, on avait les voyages gratuits.
Eh oui, les voyages...
Et moi, je me souviens qu'en banlieue, quand j'avais pas le rond pour aller à Paris, je faisais un coupon SNCF, première, rose, mettais un tampon dessus et j'allais jusqu'à la gare Saint-Michel. Et avec le même coupon, je pouvais aller à Venise. Mmh. Donc, c'était assez extraordinaire.
La SNCF, forcément, c'est une seconde famille. Vous dites que votre père vous a transmis aussi le goût du service public, hein, de la peinture, et du service public aussi. Le voyageur que vous êtes aujourd'hui, lorsqu'il y a des trains en retard, vous n'êtes pas un voyageur, j'imagine, agacé, râleur envers ses cheminots et...
Non, c'est alors il n'est pas spécialisé des acronymes, mais avec SNCF on peut en faire plein.
Alors
l'acronyme principal qui reste dans les mémoires, c'est sur 9-5 feignants, qui était un acronyme qui avait été lancé par les types des PTT à qui on disait toujours petit rail tranquille. Donc il y a eu une guerre entre les deux services publics là à l'époque. Mais j'en ai créé 50 mon acronyme de SNCF.
Il y en a un dans votre bouquin, c'est SNCF, savoir nager comme Fernandel.
Voilà, il y a savoir nager comme Fernandel, sauvons nos clochards fatigués, sirotons nos choucroutes froides, enfin bon.
Et en même temps, avec du recul, sans faire la psy de bazar, mais c'est pas anodin non plus que le fils de cheminot soit devenu le maître du polar de gare, hein, tous ces romans-là qui se livrent en poche dans les trains.
Oui, les romans de gare, mais les romans de gare, il y a toujours eu un espèce de petit côté péjoratif. Ce qui m'énerve et qui est pas lié à la SNCF, qui est lié à la pauvreté des édicules qui vendaient des journaux et des livres dans les gares. Mais le roman de gare, pour moi, c'est une référence. C'est pour ça que j'ai participé à la création de roman de gare, pour pouvoir me targuer d'avoir fait quand même du roman de gare.
Targuons-nous. N'est-ce pas ? 21 ans en 68, forcément, ça vous marque un homme.
22.
Oh, pardon. Mais 68, comme vous dites, d'ailleurs.
Mais 68, ou maintenant, avec Trump, on peut faire mes soirs sans tweet.
Ah, bien. Pas mal, hein, Jacques Péri-Salcov. Il est bon, il va falloir faire un bouquin ensemble.
Oui, je vois ça comme du petit lait.
C'est l'approximation. Mais 68, c'est sorti
d'un
libraire, bon, c'est le célèbre libraire de Montreuil, Jean-Marie Ozanne. Mais bon...
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas anodin que beaucoup d'anciens trotskistes, libertaires, anards, un peu comme vous aussi, sont des plumes du polar noir, non ?
Oui, mais en même temps, on pourrait dire qu'il y a autant d'amateurs d'andouillettes 5A qui écrivent des polars, donc il faudrait savoir. Oui, non, mais c'est vrai que l'histoire du roman noir est toujours un peu dictée par ça, c'est-à-dire que dans les pays du moins européens, et aussi en Amérique du Sud, c'est toujours un moment important de la politique locale qui crée après... une sorte un peu d'école, disons,
oui.
Qui n'a pas créé le roman noir. Quoique le roman noir a été créé par la crise de 29, donc, qui est une grosse crise également aux États-Unis. Bon. Donc c'est toujours comme ça. Et là, en 68, il s'est passé des choses qui ont fait que les auteurs ont ruminé pendant un certain temps, et puis c'est réapparu avec ce qu'on a appelé faussement le néopolar, parce que c'était pas ça, mais avec l'école Manchette et compagnie, qui ont tout d'un coup pris quand même beaucoup de motifs dégagé par les événements de 68 pour essayer de rénover une certaine forme de littérature. Et c'est toujours pareil.
Ouais.
Alors donc, là-dessus, je ne peux pas me cacher derrière autre chose.
Ne vous cachez pas, et on reparlera des nouvelles utopies à l'heure du cinquantenaire de mai 68, dont on va nous gaver quand même.
Les mémos.
Là,
ça va être dur.
Ah bah c'est clair. Autre décor d'enfance avec vous, Jacques Péri-Salcov. Vous avez passé votre jeunesse en Touraine. Un papa d'origine américaine, une maman d'origine polonaise. Qui paraît-il chantait au Offenbach.
Oui, enfin, elle chantait. J'ai toujours connu ma mère chantant dans sa cuisine, dans sa chambre. Elle chantait beaucoup.
Et elle écoutait sur son 45 tours ça.
Ah bah là, souvenir.
La sixième polonaise de Chopin.
Oui, l'héroïque.
Par ?
Par Horowitz.
Et vous dites que ce...
C'est Horowitz, hein,
ah
c'est
oui, la version. Ah oui, bien sûr.
Waouh. Alors là, c'est merci. Oui, bah j'ai... Mais c'est... Je sais pas, je peux parler
Bah bien sûr.
Je n'ose pas parler sur
si,
Chopin.
Si, le rouge est allumé. Ah bah tant pis, on parle sur Chopin.
Oui. Alors oui, mais ça tient un peu de choses les vocations parce que on regardait la télévision puis à l'époque il y avait quoi 2-3 chaînes et à un moment donné on a zappé même si on n'employait pas ce terme à l'époque et il y avait un film sur Chopin. Un film un peu très romancé, un film américain. Et puis, donc Chopin quitte sa Pologne, il arrive à Paris, il va chez Pleyel et il s'assoit au piano et il joue sa sixième polonaise.
Ouais.
Et dans ma tête, pour moi, c'était un peu une tempête sous un crâne. Ça changeait ma vie. Je voulais faire ça. Moi, je voulais jouer du piano.
Être Chopin.
Oui. Enfin non, au moins jouer du piano si bien que si on avait changé de chaîne,
Peut-être que vous seriez devenu.
Ce rendez-vous, je l'aurais manqué. Et puis le Noël suivant, c'est très très amusant parce que le Noël suivant, ma mère m'a offert un petit piano, un petit jouet, un bon tant pis,
petit piano
avec des pastilles de couleurs sur les touches. Et puis bon, comme j'avais l'oreille un peu, ben c'est comme ça. Après, j'ai pris des cours. Mais ce qui est très drôle, c'est que à cause de ces pastilles sur les touches pour reconnaître les notes, il m'est resté une synesthésie.
C'est-à-dire
que
mi
c'est rouge, fa c'est bleu, sol c'est vert, la c'est noir, si c'est une sorte de grenat. Et donc, pour moi, les notes ont des couleurs.
C'est un peu le Rimbaud de la gamme.
Hein, c'est dingue. C'est ça, ouais. Mais au final, vous, bien plus tard, pianiste, mais plutôt école jazz. Hein,
Moi, je fais beaucoup, du classique, mais je pense que je n'étais pas assez doué pour être concertiste. Mais après, je me suis intéressé beaucoup au jazz.
Ouais.
À Bill Evans, tout ça. Puis j'ai eu la chance de décrocher une bourse pour aller étudier.
À Los Angeles?
À Los Angeles, dans une école qui s'appelle Dick Grove School of Music.
Il y a un palindrome derrière, tu sais, ah, on en devient...
Non, là, je pense pas.
Et en même temps, il y a la musique, et le mot, c'est venu aussi très jeune, à 15 ans, je crois que vous lisiez le dictionnaire à l'envers, vous lisiez le dictionnaire à l'envers.
C'est-à-dire de gauche à droite, mais c'est comme les magazines, je sais pas pourquoi je feuillette les magazines plutôt de droite à gauche, enfin, oui, par la fin, quoi. Enfin,
ouais.
Bon, enfin, bref, et...
Allez-y.
Ah, ça a été étudié par des... Des chercheurs, alors ils ont étudié je ne sais pas combien d'années, ils ont dû être payés, mais ils ont trouvé que c'était uniquement à cause de la place sur le comptoir, dans les cafés.
Ah.
C'est-à-dire qu'ils préfèrent avoir le café à gauche, et donc ils tournent le journal de droite à gauche, parce que sinon après ils sont obligés d'aller chercher leur café trop loin. Il y a des explications.
Non, mais là il n'était pas dans un café.
Oui, mais enfin bon. Je ne lisais pas à 15 ans le dictionnaire dans les cafés. Non.
Et c'est en lisant donc le dictionnaire à l'envers. Merci pour l'explication scientifique, Jean-Bernard.
Bah, non, c'est des conneries sur moi.
C'est ça, tout ça pour ça.
C'est pas moi qui l'ai inventé en tout cas. Non, ça existait, vrai.
Je vous crois. Vous découvrez ce fameux mot mystérieux palindrome.
Oui, je suis tombé sur l'entrée de dictionnaire palindrome. Et il y avait ce fameux exemple, Ésope reste ici et se repose. Alors, je suis tombé, j'étais baba d'admiration parce que on ne soupçonne pas que c'est un palindrome.
Non.
Ça sonne comme une épitaphe. C'est...
Non, mais d'autres pourraient s'en fichent complètement.
La phrase est belle.
Non, mais pourquoi vous, ça vous fascine à ce point-là, quand on a 15 ans et...
Je crois que ça correspond, en fait, j'ai beaucoup réfléchi, ça correspond à mon goût, enfin... C'est comme, pour moi, la beauté, c'est, il y a quelque chose, il faut qu'il y ait du savant et en même temps qu'on oublie le savant.
Ouais.
Et c'est peut-être pour ça que j'adore la musique de Bach, parce que Bach, c'est une musique savante, mais on le sent pas, quoi. On oublie que c'est savant, ça coule. D'ailleurs, Bach veut dire ruisseau, et la musique de Bach veut dire coule comme un ruisseau. Et ce palindrome, pour moi, il coulait, quoi.
Il coulait, la beauté.
Il y a des gens qui ont dit que le palindrome, c'était le contrepoint en musique. Or, ça ne doit pas être... Moi, je comprends rien en musique. Hein. Mais à propos de Bach, il disait que le contrepoint, c'est un palindrome.
Ah, mais Bach a fait des palindromes de musique, hein.
Ah oui,
il y a des...
Vous savez quoi, vous allez poursuivre la conversation après en parlant de palindrome musical, de sens caché, de beauté, de mystère, de musique. Ça, c'est la voix ensorceleuse et envoûtante d'Arthur Ashe.
Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. Et de sang, et de sang. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse. Elle absorbe. La boxeuse amoureuse. Boum boum les uppercuts, uppercute son visage. Mais jamais elle ne cesse de danser. Tomber ce n'est rien, puisqu'elle se relève, un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres. Elle
C'est la boxeuse amoureuse d'Arthur Rasch sur France Inter. Et ce soir, nous sommes en compagnie de deux autres boxeurs de l'imaginaire, Jean-Bernard Puy et Jacques Perry-Salkov.
France Inter. Dans tes rêves.
I have a dream today. I have a dream. One day.
Laurence Garcia.
I have a dream that one day...
Réinventer d'autres utopies avec des écrivains, des auteurs, des fantaisistes, des jeux de mots, des vrais gens. On parlait de 68 tout à l'heure à Jean-Bernard Puy. On a soif aujourd'hui de nouvelles aventures au sens collectif, de nouveaux héros populaires, vous le pensez, vous, en tant que citoyen et en tant que faiseur de polar. Vous parlez du polar comme un roman de critique sociale aussi.
Oui, non.
Oui, non, d'accord. Merci.
Oui, mais parce que ça reste quand même quelque chose de basique. Mais non, parce que tout est fait pour dissuader le Pékin normal de se lancer dans ce genre d'aventure. Cela dit, il y a une résistance terrible. Et je pense que l'utopie aussi a lieu avec la résistance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout accepter. Donc à un moment donné, il faut aller un peu en dehors. Et l'utopie... c'est l'espoir. Et puis je sais plus qui c'est qui a dit que ce qu'il y a de formidable avec l'utopie, c'est qu'elle est réalisable. Donc ce qui empêche tout recul, disons.
Utopie, c'est un mot qui divise souvent. Le joueur de mots, qu'en pense-t-il, Jacques Perry-Salkov, de ce mot-là, utopie?
Utopie,
ouais.
L'utopie, c'est une toupie.
Donc ça tourne, mais ça finit par tomber quand même. Hein.
Oui, voilà, c'est ouais. Ça. Bon, en même temps... comme on vit un peu il y a bien des crises, mais en fait il y a une crise d'idéal. Peut-être qu'on a peut-être besoin d'utopie. Peut-être.
Alors justement, Jean-Bernard Puy, Mazade, votre dernier roman, là, Noir, qui tombe plutôt à pic, en résonance avec l'actualité, puisqu'il est inspiré d'une ZAD comme zone à défendre. La vôtre est imaginaire, mais elle est inspirée par les ZAD des activistes, des idéalistes d'aujourd'hui, écologistes, altermondialistes, et notamment ceux dont on a beaucoup parlé cette semaine contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Finalement, le gouvernement a abandonné ce projet-là. C'est un terreau romanesque pour l'écrivain que vous êtes.
C'est un des principes du roman noir, c'est qu'il faut construire une histoire, avoir des personnages, se trouver soi-même aussi dans ces personnages, mais dans un moment d'actualité sur lequel on n'a pas forcément raison, on n'a pas forcément le droit d'en parler, on n'a pas forcément les solutions, mais c'est un vrai sujet. Donc, depuis quelques temps, quand même, les ZAD, ce qu'on appelle les zones à défendre, se multiplient. Mais on peut dire aussi que Mitterrand, quand il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté deux ZAD, qui n'étaient pas encore appelés ZAD, Plogoff et le Larzac.
Ouais.
Donc, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. À un moment donné, il y a des résistances locales qui deviennent quelquefois nationales ou voire internationales. Alors, avant, ça marchait pas. Depuis quand même quelques années, s'il y a une grosse mobilisation, ça a plus de chances. Sivens, beaucoup plus, parce que le décès de Rémi Fraisse, c'est encore dans toutes les mémoires. Bon. Et là... on verra bien.
On verra bien. Mais là, c'est une fiction. Votre narrateur, votre héros, votre anti-héros, c'est un type qui, voilà, c'est un quadra, qui travaille dans un supermarché, qui se retrouve au chômage, plaqué par sa nana. Et on parlait de sens avec Jacques Perry-Salkov tout à l'heure. Il va retrouver un sens à sa vie, justement, en prêtant main forte à ses zadistes, voilà, en leur filant les surplus du magasin ou autre. Et c'est ça aussi, c'est retrouver un sens, soit une petite
vie.
Oui,
puis je voulais parler aussi de la radicalisation. Tout le monde parle de radicalisation, mais tout le monde parle de radicalisation à propos toujours des mêmes personnes, c'est-à-dire des pauvres gars de banlieue pris dans une idéologie particulière. Là, c'est pas ça. C'est que quelqu'un qui, bon, emmerde personne, et tout lui tombe dessus à la suite, quoi. À un moment donné...
C'est subir ou se résigner ou s'engager autrement.
Oui, puis je crois aussi c'est comme le mercure. Le mercure, dans le sang, dans le corps, il s'accumule. Au début, on s'en fout. C'est comme si on avait bouffé un thermomètre. Mais à partir d'une certaine dose de mercure, on devient dingue. On a des maladies extraordinairement difficiles. On l'a vu au Japon avec les pêcheurs qui mangeaient du poisson qui était pourri de mercure. Donc, c'est un peu ça. Ouais. La radicalisation, c'est à force d'en prendre plein la tête, à un moment donné, on réagit. Enfin, on se dit, bon, c'est pas possible. On essaie de retrouver un sens, de retrouver sa passion, d'être debout face à un monde qui vous considère comme couché, quoi. Quand même.
Ouais. Les sens cachés, les fameux sens cachés que vous tentez de traquer, vous, Jacques Perry-Salkov, dans un autre registre, hein, à travers les mots.
Oui.
Je crois que Notre-Dame-des-Landes vous a inspiré.
Oui. Alors Notre-Dame-des-Landes, ça donne nomade dans le désert. Et on peut peut-être
c'est
la.
Magnifique.
C'est dingue. Hein,
on peut peut-être la dédier aux zadistes, justement, qui souhaitent que la campagne demeure déserte.
Mais de toute façon, dans les palindromes, les anagrammes, c'est souvent utilisé, alors bien sûr en littérature, au cinéma, mais également en science, pour parfois masquer des découvertes scientifiques. Hein, tout à côté.
C'est Galilée qui cryptait ses découvertes, enfin, qui consignait ses découvertes en une anagramme, quoi, ce qui permettait de à la fois de protéger ses découvertes et puis de les entourer de mystères.
Bah d'ailleurs, ZAD, à l'origine, cette expression-là par les aménageurs, c'est zone d'aménagement différé.
Zorro a déglingué ou...
Oui.
Mais d'ailleurs, dans ma ZAD, il y a ma ZAD.
Que je ne voulais pas parler de la ZAD. Ouais. Je ne suis pas suffisamment costaud pour en parler.
Oui, mais à un moment donné, votre narrateur, il dit ma ZAD.
C'est ma ZAD.
C'est ma ZAD, c'est-à-dire aussi c'est ma zone à défendre à moi, qui est aussi celle de mon imaginaire, de mes idéaux, de reprendre sens... de ma vie
c'est
aussi,
la mienne,
quoi.
Et puis alors, si on cherche un peu, on peut tomber sur des trucs qui sont plus généraux, disons, qui intéressent plus les autres que ma petite personne. Donc, c'est ma ZAD.
C'est ma ZAD. Vous qui avez travaillé avec aussi bien les physiciens, Étienne Klein en a parlé, Sylvain Tesson, Raphaël Enthoven, une collaboration avec Jean-Bernard Puy pour vous inspirer des sens cachés derrière l'univers, l'imaginaire du polar noir. C'est possible,
On pourrait... disséminer des anagrammes dans un roman noir.
Oui, mais je me méfie, moi, des sens cachés, par exemple.
Oui, pourquoi?
Si je leur demandais de trouver les anagrammes de, par exemple, pas Mazad, mais des titres...
Mazda.
Voilà, on trouverait peut-être le contraire de ce que je veux dire. C'est ça qui est intéressant dans l'anagramme, c'est que y a les deux sens peuvent être contraires et donc se compléter. Enfin.
Oui, c'est vrai que l'anagramme, soit elle va dans le sens du personnage... comme par exemple Marie-Antoinette d'Autriche, si elle avait interrogé son état civil, elle aurait peut-être pu prévoir sa funeste mort. Parce que Marie-Antoinette d'Autriche a fait Reine, ta tête a du choir matin.
Ah oui, effectivement. Mais finalement, les sens cachés, c'est ça aussi. Il y a l'imaginaire, il y a le réel.
Effectivement, si tout le monde était cloné et similaire. On profond. Et on a toujours des surprises quand on connaît un peu plus l'autre, quand même. Quand on entre un peu dans ses tréfonds, ça fait peur.
Dit-il, polar noir. Il n'y a pas de clone ce soir.
France Inter.
Waouh. As-tu déjà fait un rêve qui avait l'air plus vrai que la réalité? Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel ?
Laurence Garcia.
Waouh, on se croirait dans une bande-annonce de polar, plus à l'américaine qu'à la
Ouais, je fais un peu Star Wars.
Ouais, oh l'autre. Messieurs, il est bientôt minuit, c'est l'heure de notre dernière séquence imaginaire, et comme à chaque fois, Jean-Bernard Puy, Jacques Perry-Salkov, je vais vous demander de fermer les yeux. Allez hop. On vous plonge dans le noir et vous fermez pas les yeux. Fermez les yeux, Jean-Bernard. Il est indiscipliné, c'est un libertaire total. Les yeux fermés, vous me répondez. Je vais commencer par vous, Jean-Bernard. Puis, si vous pouviez croiser justement ce fils de cheminot qui se faisait des films, là, du cinéma intérieur, dans les gares, à regarder les trains, avec du recul, qu'est-ce que vous lui diriez à ce môme, les yeux fermés?
Ah, surtout... Je dirais de se méfier du discours des gens, des puissants, de ceux qui ont le pouvoir, parce que, comme on dit depuis le début de cette émission, il y a plusieurs sens au même discours. Il faut essayer de pénétrer un peu le vrai sens pour pouvoir s'échapper, pour pouvoir se méfier, pour pouvoir répondre, pouvoir réagir, mais surtout pas suivre.
Et d'ailleurs, Jean-Bernard Puy, dans tous vos polars, enfin souvent, il y a souvent des trains, il y a des cheminots, il y a des jeunes anards, il y a des gares. On écrit, il y a des banlieues, on écrit avec ou contre ces fantômes de l'enfance ?
Non, avec, parce que bon, je pense que chaque auteur est nourri aussi de sa propre histoire. Et, bon, je peux pas écrire comme Catherine Pancol. Bon, d'abord, je ressemble pas.
Non.
Et puis, j'ai pas vécu les mêmes choses. Ça serait un trop gros boulot d'essayer d'écrire un roman d'amour moderne. Non, j'écris avec ce que je connais. Mais ce qui me rassure, c'est que tous les jours, même si maintenant je suis d'un âge respectable, tous les jours j'apprends des choses, je rencontre des gens, je vois des espèces de nouvelles perspectives comme ça. Et puis bon, on les suit pas, mais de ce côté, pour ça, je ne suis absolument pas pessimiste.
Il a les yeux fermés, il est bien sage, Jacques Perry-Salkov. Idem, vous pouvez recroiser
ce...
Il dort, en fait. Vous pouvez croiser ce gamin qui rêvait en écoutant Chopin avec son piano Bon Tant Pis, avec du recul. Qu'est-ce que vous lui dites à ce môme-là ?
Je lui soufflerai peut-être une anagramme, puisque c'est ma seconde passion.
Laquelle ?
Par exemple, Aurore Dupin, baronne du Devant, alias Georges Sand. Valsera d'abord au son du piano d'un génie étranger. Alors ça, c'est l'anagramme, donc...
On vient Chopin.
et le gamin, il va se dire, oh là là, même quand je serai grand adulte, je continuerai à me bricoler des anagrammes. Ouais, c'est pas fini, c'est une maladie éternelle.
Ah oui, il serait scotché, parce que c'est venu, les deux passions sont venues en même temps, mais... J'ai mis de côté un peu le goût des mots parce que la musique était la plus forte quand j'avais 13 ans. Puis les mots sont revenus, m'ont rattrapé beaucoup plus tard.
Les mots nous rattrapent toujours.
Oui.
C'est bon, vous pouvez réouvrir les yeux. Ça va ? Bien rêvé ? Beau voyage imaginaire.
Bon, on se réveille, là, c'est bien.
Hein ?
Quelle heure il est, là ?
Il est bientôt minuit, messieurs. En tout cas, je suis ravie.
On a dormi longtemps.
Ouais, mais enfin, minuit, c'est l'heure du crime.
Ah, oh là, là, on sent que là, c'est le polar, là, c'est le faiseur de polar qui se réveille. Bah, en tout cas, ravie de cette rencontre entre vous, qui fut la première, et j'espère pas la dernière pour vous. Le Vivarium de Palindrome, c'est chez Fayard et c'est signé Jacques Perry-Salkov. Ma Zad, et c'est la sienne, Jean-Bernard Puy, série noire chez Gallimard. Merci beaucoup, messieurs. Quoi ? Qu'est-ce qu'il veut rajouter ?
Mais il y a une anagramme de Laurence Garcia.
Ah, bah voilà, alors dites-moi tout.
Grâce à un éclair.
C'est pas mal.
Un éclair au café, au chocolat.
Non, un éclair.
Atmosphérique.
C'est tout moi, ça. Merci beaucoup, messieurs.
Merci.
À très bientôt. Dimanche prochain, nouvelle rêve partie avec cette fois-ci l'écrivaine Mazarine Pinjot et l'avocat Emmanuel Pierrat. Et bien sûr, oser rêver, l'imaginaire est notre plus grande liberté et personne ne peut nous l'enlever.